Donc, je vous remercie beaucoup tous d'être ici ce soir. Je remercie donc la Maison des Écrivains de la Littérature, Sylvie Goudbaron, Laurence Bobis, qui n'est pas là, qui est la directrice de la bibliothèque, Sylvia de Bouvier. Ben, je fais exprès, hein. J'associe les gens de la BIS et les gens de la MEL, Ismaël, Mylène, qui n'est pas là, qui m'a accueillie aussi beaucoup, et puis toutes les personnes qui m'ont accueilli pour participer à participer à ce beau cycle du livre en question, dans les conditions aussi qui sont celles que l'on vient de rappeler. Donc à vous tous qui travaillez ou fréquentez ces lieux, donc je dis mes remerciements, et à ceux qui ne connaissent pas cette bibliothèque, je veux souhaiter la bienvenue. Je suis heureuse que nous soyons tous réunis dans ce lieu dont vous m'entendez si souvent parler pour dire que j'y vais ou que j'en viens. De toutes les bibliothèques de Paris, c'est celle que j'ai choisie comme lieu de recherche et de réflexion privilégié. Et je vais tenter de vous dire pourquoi. Alors, lorsque j'ai été invitée à parler ici, un mot s'est imposé à moi tout de suite. C'est un mot espagnol. C'est le mot « rescate ». Rescatar, c'est sauver d'un danger, racheter un prisonnier, payer la rançon d'un captif, sauver de l'oubli, sauvegarder. Alors, un jour, je disais à un jeune éditeur que dans mon travail de traductrice, de chercheur ou d'auteur, je fonctionne comme quelqu'un qui ferait des confitures. Je repère les fruits savoureux et mûrs et je les prépare. Je les transforme pour ne pas qu'ils soient perdus. J'écris sur ce qui me semble menacé d'oubli ou de perdition. Voilà. Proust est passé par là. Je veux comprendre ces choses et les faire vivre, les transmettre au moins pour un temps, faire ce travail-là. Alors cet éditeur m'a répondu que dans son travail, il se sentait, lui, plutôt chasseur, à l'affût des proies à saisir. C'était assez drôle parce que c'était un spécialiste de philosophie chinoise et de bouddhisme. Il avait la tête rasée, un sourire doux et pourtant vif. Je sais que ce n'est pas très politiquement correct, mais la chasse m'a semblé une idée très masculine et mes confitures bien féminines. J'en ai été un peu mal à l'aise et j'ai cherché une autre métaphore. Alors je lui ai dit... j'ai parlé de recherche de trésors enfouis, mais mon histoire de confiture avait déjà figé sur son visage un sourire ironique. Et bon, je me suis souvenu aussi que le gibier est souvent servi accompagné d'une préparation à base de fruits, quoi, une confiture d'airelle, ce genre de choses. Mais bon, piètre consolation de confiseur, de confiseuse, de confiseresse, à défaut d'être chasseresse. Donc, dans mon entreprise de rescate. La BIS, la Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne, offre à ses invités de ce cycle un accueil privilégié. La directrice et les personnes impliquées pour faire, donc, invitent à faire connaissance des lieux afin de choisir un ouvrage. Ce jour-là, on remet solennellement à l'invité la carte de la bibliothèque qui n'est pas accessible à tous. Mais pour ma part, j'avais déjà la mienne et je savais de quoi je voulais parler. Ce jour-là, j'ai surtout rapporté de la visite, la rencontre avec Hubert Haddad, que je ne connaissais pas personnellement. J'ai profité de son regard neuf pour m'émerveiller avec lui. Alors, je marchais dans son sillage, je me sentais tantôt invitée, comme lui, c'était le cas, et tantôt dans le rôle de l'hôtesse qui le recevait. On nous a montré des endroits singuliers, de la bibliothèque, l'atelier de numérisation, par exemple, des livres et de documents anciens, où il y avait un appareil qui prenait des photos de livres ouverts, mais pas complètement. C'est un grand pupitre, comme un porte-coran, vous voyez, donc c'est ouvert, mais pas complètement, pour ne pas casser les reliures. Et les images rendues était d'une précision telle que les documents étaient bien plus lisibles après la photographie. Sur le mur, j'ai reconnu une carte ancienne de la Hongrie qui aurait plu aux plus conservateurs des Transylvains. Mais, donc, le photographe qui était là, la personne qui était là, disait que le problème est le temps passé à placer les documents sous l'objectif et à tourner les pages. Alors, il faudrait engager des doctorants motivés. Mais voilà. Moi, quand j'ai vu tout cet appareil, j'avais envie de rester avec lui à tourner des pages. Rescate. Donc, je me suis attardée devant la carte, mais sur le mur, mais il fallait continuer. On nous a montré ensuite l'atelier de restauration. Alors là, il y avait plein d'objets mystérieux. J'ai reconnu des futons. Vous savez que les livres fragiles, on les met sur des futons. Et puis on les ouvre, on les soutient avec des petits bourrelets de velours remplis de billes de plomb pour tenir les livres ouverts sans les abîmer, sans trop les toucher. Comme à la réserve ici, par exemple, à la réserve pour ces livres-là. J'ai vu aussi de tout petits pots, des spatules de bois, des loupes, des pinces. Il y avait une lumière très forte sur un pupitre où un ouvrage était en cours de traitement. Ah, il y avait une jeune femme qui nous a reçus. Elle a répondu très patiemment à toutes nos questions. Ses mains délicates, les gestes lents m'inspiraient le plus grand respect et le plus grand intérêt. Je n'ai pas remarqué tout de suite qu'elle était sur un fauteuil roulant. Et elle a précisé que chaque intervention est une altération et que tout ce qu'elle fait doit être réversible. Devant elle, il y avait du papier Japon dont la texture et la couleur me rappelaient celle d'un parchemin ou d'une peau humaine un petit peu tannée. Et alors, encore une fois, il fallait partir à regret. Bon, bien sûr, toute opération de rescate est provisoire et la bibliothèque nous ramène toujours à l'humilité et devant le temps. Alors, cette étape-là m'a rappelé une visite que j'avais faite il y a longtemps au Krak des Chevaliers, en Syrie, au milieu du désert. Et il y avait celui qui nous servait de guide, parce qu'il y avait tout un groupe, était un architecte qui enseignait aux étudiants locaux à faire des restaurations sans imiter complètement l'original, pour que les interventions modernes restent bien visibles. Alors c'était un monsieur qui avait plus de 70 ans et qui sautait comme un cabri dans les vestiges. Et quand nous sommes arrivés à la chapelle, il s'est tourné vers moi. Tous les étudiants syriens, il s'est tourné vers moi. Donc il y avait là des ogives. Il s'est retourné vers moi et il m'a dit « C'est la France bon. ». Ensuite, dans cette visite qu'on a faite, nous sommes arrivés dans les magasins. Alors, les magasins, j'en avais déjà vu à la BIS, parce que les enseignants-chercheurs ont libre accès à une partie des fonds. Et par ailleurs, j'ai eu la chance d'en voir certains autres, grâce à des magasiniers de la bibliothèque qui sont mes amis. J'ai parlé de ça lors de la soirée que la bibliothèque avait organisée quand nous avons perdu Eric Garnier l'hiver dernier. Éric, poète, écrivain, artiste, plasticien, a été l'âme de ces rendez-vous du livre en question, et puis il a disparu soudainement. Alors, je ne vais pas répéter ce que j'avais déjà dit, mais il faut bien dire que mon attachement à ce lieu vient de choses qui sont évidentes. Vous voyez, la beauté du bâtiment, le quartier latin, bien sûr, les collections, évidemment, mais ce sont surtout les personnes qui comptent pour moi ici. Alors, le personnel que les lecteurs fréquentent le plus ou fréquentaient le plus, ce sont les magasiniers, ceux qui donnent les livres. Bon, maintenant que la commande se fait de façon électronique et que la banque de données est centralisée, c'est un peu différent. Puis en plus, la bibliothèque a engagé des stagiaires, donc des contractuels plutôt. Et donc le lien est moins fort. Mais pendant des années, bon, j'avais toujours affaire aux mêmes personnes, derrière le même guichet. Pour moi, c'était le guichet B. Et bon, donc les personnes qui étaient là étaient arrivées à peu près en même temps que moi et ils ressemblaient aux livres qu'ils me donnaient. Et donc on se ressemblait tous. Pour moi, venir ici a toujours été et demeure un rendez-vous tacite avec ces visages amis, comme des voisins ou des collègues. On ne donne pas de rendez-vous, mais ils sont là. Et nous parlons en sachant que le travail nous attend. Donc c'est vraiment très précieux parce qu'on est tous un peu pressés, mais on vole un peu de temps à notre travail. Et certains ont obtenu des postes différents, mais nous croisons. Et puis je cherche leur regard. Ils sont là, on se dit bonjour. Donc avant les travaux, la première fois que j'ai vu les magasins, c'était avec Solange, qui est là. Donc elle m'avait permis de l'accompagner chercher des livres. Alors j'étais tout émue de passer derrière le guichet B. Et nous avons franchi un endroit qui s'appelle la passerelle des Slaves. Elle était vidée de ses livres parce qu'elle prenait l'eau. Et le guichet B aussi était plein de courants d'air qui faisaient souffrir les personnes qui y travaillaient. Moi qui aime tellement les lieux anciens, je devais me rendre aussi à l'évidence parce que la nécessité des travaux. Et une autre fois, à la veille de ces grands travaux de la bibliothèque, François, lui aussi, magasinier magique, poète, écrivain, traducteur, m'avait montré les caves qu'il parcourait depuis des années en sifflant et en chantant. Il m'a signalé un réduit qui avait servi d'abri pendant la guerre, avec des inscriptions sur le mur qui en témoignaient. Il y avait partout du bois nu, il y avait des fils électriques lâches. Tout ça, c'était très dangereux, il fallait rénover, disparaître. Abraham Benjo, qui est là, qui n'a pas mis les pieds dans la bibliothèque depuis 47 ans, m'a dit combien il était surpris du changement. Et donc, depuis, voilà, j'ai revu les magasins repeints pour la première fois lors de la visite d'accueil. J'étais invitée. Donc l'abri que m'avait montré François était méconnaissable, les couloirs propres, lumineux. On nous a conduits ensuite à la grande cave. Donc la grande cave, la cave Richelieu, m'a permis d'oublier ma nostalgie. Voilà. Donc j'ai dans la cave, la grande cave, la cave Richelieu, j'ai oublié un peu ma nostalgie en sentant une grande familiarité physique avec ce que je voyais autour de moi. En fait, il y avait autour de moi les cotes L. Elle comme littérature. Ce sont des œuvres littéraires et les textes critiques qui ont été catalogués, je pense, jusqu'à l'orée des années 2000 avant d'acquérir la cote M. Et alors la cote M, le problème, c'est que sans distinction de domaine, par ordre d'acquisition, les livres ont pris cette cote. Et donc, ils ont perdu leur identité. Vous voyez, comme les plaques d'immatriculation des voitures quand elles ont perdu le numéro du département. Et donc dans cette grande cave, je retrouvais tous les livres qui ont servi à ma formation. Les livres des éditions Gredos, le nom de Damaso Alonso, les publications du Seuil, Barthes, Genette, les autres. Plusieurs éditions de Proust et Lessing, de Deleuze. Bon. Et c'est là que Mylène, qui nous accompagnait, m'a demandé si je connaissais Eric. J'ai répondu oui, et elle voulait me raconter que quelquefois, quand il descendait chercher des livres pour des lecteurs, ils en prenaient un ou deux de plus, comme ça, création, une récréation un peu oulipienne, un jeu sur le hasard objectif. Balisé surtout par les limites de la cote L. Et elle m'a dit aussi que... Enfin, bon, je me suis rendu compte que ma tête était farcie de la cave Richelieu. Et elle s'appelle Richelieu parce qu'elle est sous l'amphi Richelieu, du même nom. Et Mylène m'apprend que les magasiniers la surnomment aussi les oreilles de Mickey. Ah, les oreilles de Mickey, c'est parce que dans l'amphi Richelieu... Il y a un grand tableau qui représente Apollon et les Muses au sommet du Parnasse, simplement. Et des deux côtés, il y a des niches qui font les oreilles de Mickey. Mais Apollon, la tête de Mickey. Donc voilà, ici, dans les caves, nous sommes juste en dessous du Parnasse. Tous ces noms, donc la passerelle des Slaves, la cave des Indiens sous l'Institut d'études indiennes, la crypte de Notre-Dame du Liban, les Russes, un fonds qui maintenant se trouve à la Bulac, c'est-à-dire la bibliothèque de l'INALCO. Tout ça, c'était un ensemble exotique, très langzo. Voilà, conversation avec Norpois, sauf Mickey, bien sûr. Et nous sommes arrivés à un endroit où étaient stockés des livres pour le pilon, donc le rebut. Alors, certains étaient abîmés dans des accidents de compactus. Alors, vous savez ce que c'est qu'un compactus ? Les compactus, ce sont des panneaux de rayonnage placés sur des rails que l'on peut déplacer avec des manivelles, comme à la Casa de Velázquez. C'est un grand gain de place, mais les compactus sont lourds et difficiles à manipuler. Donc le travail est pénible pour les magasiniers. Et si un ouvrage tombe, il peut être écrasé. Et si on ne se rend pas compte, on y va de bon cœur et hop, adieu. Les livres écrasés, même encore lisibles, sont inutilisables par la bibliothèque. Leur aspect est modifié, et quand je les vois, ils me font prendre conscience des trois dimensions de l'objet. Ils redeviennent des objets avec des formes capricieuses. Vous voyez, le dos est soulevé, la tranche pliée. Ils prennent une allure comme ça, végétale, animale, douloureuse. Alors on me dit que je peux en demander un. Alors, vous imaginez, pour moi, c'est le comble du rescate. Et j'ai repéré dans un coin des œuvres de Jean de la Croix en espagnol, Obras de San Juan, tout meurtri. Alors, Marie-Thérèse le fait décataloguer. Je vais vous le montrer parce que je l'ai pris. Pour vous montrer qu'effectivement, voilà ce que donne le compactus. Vous voyez, il est là. Et hop, le compactus, voilà, on voit ce qui lui est arrivé. Bon. Alors, j'en demande un, et Marie-Thérèse donc, fait décataloguer pour moi et pour me l'offrir. Mais il était déjà décatalogué, hein, c'est juste, il y a eu tout un processus, je ne sais pas lequel, pour me le donner. Alors, après, me l'a donné dans une enveloppe. Et c'était magique. Alors, est-ce que c'est un peu un trophée pour moi, une relique de ce lieu où pour moi tout est disponible, bien sûr, mais où rien ne m'appartient, sauf donc ce livre maintenant. Et puis un autre objet. Attendez, je vais vous montrer. Vous allez me dire si vous devinez ce que c'est. Ça. Vous savez ce que c'est ? Je vois Solange qui sourit. Parce que Solange sait ce que c'est. Vous savez ce que c'est ? Vous en avez vu. Il y a eu un moment où il y en avait plein dans cette bibliothèque. Ça, c'est un cadeau d'Éric. C'est une rondelle tirée d'une des tables de la grande salle. De la grande salle, la salle d'apparat, la salle Jacqueline de Romilly. Au moment des travaux, a dû être. Enfin, les grandes tables ont été percées pour. Je ne sais pas si. Je crois que c'était pour les lampes. Et pour les nouvelles lampes. Et donc il y en avait plein. Vous êtes en veux un ? Oui, oui, bien sûr. Donc un morceau du vrai bois, de la vraie table. De la... Voilà. Bon. Je ne sais pas si on pourrait faire 20 000 tables avec tous les rondelles que. Bon. Donc pour tous les anciens, il y a donc eu deux périodes à la BIS, avant et après les travaux, 2010-2013. Une période où moi-même j'étais en travaux. J'étais bien malade, donc j'étais en travaux pendant à peu près la même période. Vous voyez combien je m'identifie à ce lieu. Entre-temps, nous avons été hébergés à Sainte-Barbe. Les livres sont restés accessibles. Certains étaient stockés dans la crypte de la cathédrale maronite Notre-Dame du Liban. Vous voyez, je m'en délecte rue d'Ulm. À Sainte-Barbe, j'avais élu domicile. Dans un ancien réfectoire décoré de mosaïques bleues turquoises chargées d'oiseaux, de fleurs, de fruits. Les tables étaient en marbre, pas pareil, hein, plus froid. Les magasiniers et les bibliothécaires étaient trop loin. Mon regard remontait souvent vers ce paradis comme ça qui avait dû faire rêver des générations de pensionnaires enfermés dans cet entresol. Alors, la famille du guichet B a été disloquée après les travaux. François a contribué au déménagement, mais c'est le moment qu'il a choisi pour prendre une retraite anticipée dans le sud de la France, et il n'est pas revenu ici ensuite. Lise, travaille ici aussi, a consigné le souvenir du lieu avant travaux. Elle était magasinière, devenue bibliothécaire adjointe, et elle est aussi photographe de talent. Il faut dire que beaucoup des gens qui travaillent ici ont plein de talents. Et donc elle avait eu une mission officielle, officieuse, et l'autorisation en tout cas de pérenniser les lieux et les gens. Et elle m'a photographiée aussi. J'en ai apporté la preuve. C'était en 2008, donc avant les travaux. Et mon lieu dans cette bibliothèque, l'endroit où je travaillais tout le temps, vous voyez, je suis quelqu'un d'habitude, l'endroit où je travaillais tout le temps, c'était justement ici, dans la salle qui maintenant est la salle de formation, qui s'appelait auparavant la salle de bibliographie, puis la salle de référence. Et donc j'avais mon univers, j'avais mes dictionnaires de langue classique et des bibliographies. Donc j'avais Autoridades, Maria Moliner, j'avais Simón Díaz, j'avais l'index IBEPI, voilà. Donc vous allez voir, donc plusieurs, voilà, donc ça c'est moi. Donc c'était vraiment là, hein. Là il y avait un fond, non, c'est juste avant. Non, c'est les trois, il y a trois photos, voilà, il y en a une là. Là, et vous voyez, alors là vous allez voir, là, en fait la salle était ouverte de l'autre côté, et là il y avait une verrière, il y a une verrière de l'autre côté, là où on va prendre le pot tout à l'heure. Ici tout était plein de livres, il y avait une partie là où il y avait certains livres de référence, là il y avait des tables jusqu'ici, et puis là, la partie où il y avait donc le. Donc là, tout par ici, tout ça, c'était les dictionnaires, les usuels, quoi. Donc c'était ma table, c'était là, mon petit coin. Et de l'autre côté, donc là c'était mon petit paradis, et de l'autre côté, donc la bibliothécaire et le qui était là, qui était en service public. Et c'est à ce bureau que j'ai rencontré Marie-Thérèse, qui est là, qui est conservateur, et elle, parce que mes copains étaient les magasiniers plutôt, mais elle, je l'ai rencontrée autrement, et elle m'a initié à d'autres questions, à la question liée aux acquisitions, à la dialectique entre la conservation et la communication. Elle me parle de son travail, mais aussi de choses insoupçonnées. Par exemple, des dépoussiéreurs qui circulent dans tous les magasins et qui, aussitôt le travail terminé, doivent recommencer dès le début. Je me dis bien qu'il faut imaginer les dépoussiéreurs heureux. Mais... Laurence Bobis, la directrice de la bibliothèque, nous a parlé du travail invisible. Il y a ce vocabulaire, les maraudes, les brigades pour retrouver des livres déplacés, parce qu'un livre déplacé, c'est un livre qui n'existe pas. Mais voilà, c'est vrai que dans les bibliothèques, nous sommes tous invisibles, sauf dans des circonstances comme celle qui nous réunit aujourd'hui. Donc tous ces rats de bibliothèque qui côtoyons des merveilles. Donc tous ensemble, les magasiniers, les étudiants, les chercheurs, les conservateurs qui passent ici quelques années ou une grande partie de leur vie comme moi. Alors maintenant, j'ai élu domicile dans la bibliothèque Salle Néno. C'est une salle qui est juste en face. Et elle se trouve et c'est là, dans cette salle où je passe beaucoup de mon temps, que Sylvain a fait la photo qui a servi pour l'affiche c'est une belle photo. Alors, il faut dire que dans toutes les villes où j'ai vécu, j'ai cherché des bibliothèques et j'y ai travaillé. Donc mes critères sont toujours les mêmes, donc là, les collections, l'accès et le confort. Alors, à Madrid, c'est à Madrid que j'ai trouvé la plupart des documents que j'ai étudiés dans ma thèse de doctorat sur les représentations de Marie-Madeleine dans l'iconographie et la littérature des XVIe et XVIIe siècles espagnols. C'était le titre. Bon. Et j'allais tous les jours pendant plus d'un an à la Bibliothèque Nationale. Et là, de la même façon, je connaissais le personnel de sécurité. Il y avait Paloma qui travaille toujours là, Granada, une fille qui s'appelait Granada, je trouve ça magnifique. Au vestiaire, il y avait Teresa et Dora. Dans la grande salle, Concha l'Andalouse. Dans la salle de réserve, Emilio, le Galicien, qui me trouvait toujours un bon petit pupitre près d'une fenêtre à la réserve. Dans la salle de réserve à la Nationale, on l'appelle aussi salle Cervantes ou la salle de Raros. Alors c'est drôle en espagnol parce que Raros, ça veut dire à la fois les livres rares, mais ce sont les gens bizarres. Donc, un peu les deux. C'est l'endroit que j'ai le plus fréquenté, côtoyé, les gens que j'aime le plus. Alors, quelquefois, nous avons des surprises. Quelquefois, sur une erreur de cote, on pouvait se retrouver devant un manuscrit enluminé du Moyen-Âge. Alors là, on était comme ça, on ne savait plus quoi faire. Il fallait trouver un copain, une copine pour le montrer. Je me souviens d'avoir eu entre les mains un manuscrit poétique qui m'avait donné un fou rire devant l'humour absurde, c'est à la fois ancien et très frais, qui jouait sur des clichés bucoliques. Alors ça racontait, oui, voilà, ça parlait d'un gars qui disait, voilà, assis au bord de l'eau pour ne pas s'asseoir dans l'eau, sa bien-aimée était dure et cruelle, car elle n'était pas molle et cuite, parce que, enfin, en espagnol, dura y cruda, pour dire cruelle, c'est cru en fait, elle était, voilà, elle n'était pas molle et cuite. Alors, voilà, rigolade du XVIe siècle. 17e plutôt. Donc, après cette année de récolte à la nationale, non, pas de chasse, de récolte, j'ai passé donc de nombreux séjours plus brefs pendant mes vacances. Et je me rappelle m'être rendue à la bibliothèque un matin de mars 2004 et d'avoir senti la ville bouleversée. Tout le monde parlait des explosions de la gare d'Atocha. Et donc, on l'attribuait encore aux Basques à l'époque. Alors moi, j'ai téléphoné tout de suite à ma famille à Paris. Personne n'était au courant, personne n'avait eu le temps de s'inquiéter, tout le monde allait bien. Et bon, alors, je suis allée dans ma salle de raros, je me suis installée. Et au bout d'un moment, j'ai vu arriver le directeur de la réserve, Julián Martín Abad, qui est bon, spécialiste de l'imprimerie à Alcalá de Henares. Il est arrivé blanc comme un linge, décoiffé. Il était rescapé de l'attentat qui avait fait 191 victimes. Et bien sûr, il était allé travailler comme un robot. L'été dernier, je suis allée à Madrid pour consulter un autre fonds moderne. Et donc, je suis passée quand même, je suis retournée sur les lieux à la Bibliothèque nationale. Mais là, j'avais un livre sur lequel je voulais travailler. Je cherchais de la critique. Mais les normes de la Bibliothèque nationale exigent de demander une autorisation pour faire passer un document extérieur. D'ailleurs, à la sortie, à la Bibliothèque nationale de Madrid, les vigiles vérifient tous vos papiers un par un, parce qu'il y a dû y avoir des vols de documents. Et on vérifie aussi votre ordinateur pour voir si le numéro qui est collé avec donc une petite étiquette correspond bien au numéro de votre carte. Donc ça fait passer un temps fou aux vigiles. Donc, on ne me laissait pas passer avec mon livre. Il me fallait aller dans une salle, monter, descendre les escaliers. Voilà, je me suis retrouvée devant des boiseries sombres et avec un bibliothécaire qui m'a reçu. Et quand il a vu ma carte, il a été étonné par mon numéro, ce qui devait être, qui montrait que j'étais une lectrice de très longue date. Alors, on a parlé des anciens, des gens qui travaillaient. Il ne les connaissait pas tous. Le lendemain, j'ai dû refaire la même opération, aller redemander l'autorisation pour faire passer mon livre. Et là, lui était occupé, donc je suis tombée sur une de ses collègues, et alors elle m'a reçue vertement. Elle a commencé à m'expliquer mais que je ne savais pas que c'était une bibliothèque patrimoniale, qu'on ne pouvait pas entrer avec n'importe quoi, mais qu'est-ce que je croyais ? Alors le gars est venu, l'autre, le collègue est venu, il a glissé ma carte. Quand elle a vu mon numéro vénérable, elle a changé de ton immédiatement. Moi, j'avais pas mal pris la leçon, hein, parce que donc, dans les bibliothèques, nous sommes habitués, encore une fois, à être anonymes et invisibles, modestes face aux livres, etc. Et justement, pendant ce séjour, un jour, je rencontre une collègue hispaniste française, on décide d'aller prendre un café, on descend à la cafétéria, et moi, en faisant toujours mon habitué, je vois passer quelqu'un que j'avais vu commencer à travailler à la cafétéria 25 ans auparavant, même un peu plus. Je lui dis, tu vois, celle-là, je l'ai vue arriver, elle était ravissante, elle était belle, elle avait des cheveux bruns comme ça, vraiment, elle était très sérieuse. Alors, on prend notre café toutes les deux, et puis au bout d'un moment, on reste au bar, et la personne, la dame de la cafétéria, elle vient, elle me dit, mais il y a longtemps que tu n'es pas venue, et je te connais, toi, tu venais souvent avant, parce qu'en espagnol, on se tutoie. Et on se parle, mais c'était la première fois de notre vie qu'on se parlait, toutes les deux. En fait, chaque bibliothèque a ses rituels et ses conditions d'accès. Et s'il manque un seul élément, la porte reste close, il faut le savoir. Dans d'autres villes que j'ai beaucoup fréquentées, mes expériences ont été plus ou moins heureuses. Alors, par exemple, à Budapest, une des villes que j'ai beaucoup fréquentées dans ma vie. Elle est dotée de bibliothèques merveilleuses. Par exemple, la Bibliothèque nationale, la Bibliothèque Széchenyi, occupe une partie du palais royal dans les hauteurs de la ville. Elle est célèbre pour la richesse de ses collections, et aussi pour un système de distribution automatique. Alors, une place des livres dans de petits chariots individuels, il faut voir ça, hein. Donc on a l'impression d'être dans un film de Tim Burton, vous voyez, c'est Charlie et la chocolaterie sans les Oompa Loompa. Donc ça tourne partout, et donc il y a les livres tombent dans le petit chariot, ils circulent et on les voit, enfin, c'est absolument magique. Ça s'appelle un télélift Renser, donc système de télétransport. On a l'impression d'être, c'est absolument au 19e siècle, magique. Mais la bibliothèque Széchenyi est un peu loin de l'endroit où j'habitais, donc j'ai élu domicile dans une autre bibliothèque, la bibliothèque de l'Académie, tout près du Danube. Alors, le problème était autre. Pour y entrer, il fallait d'abord laisser son vêtement au vestiaire. Là, on vous donnait comme un porte-clés, Kulchtarto. On vous donnait le Kulchtarto, vous devez l'apporter à un premier guichet, où il y avait une vieille dame qui vous donnait une carte, qui ressemblait à un passeport, qui correspondait au rayon que vous souhaitiez consulter. Avec ce passeport, vous alliez voir une autre dame et vous lui donniez une cote que vous vouliez consulter. Et elle vous donnait encore un autre carton avec un numéro de place où vous pouviez vous asseoir. Déjà, il fallait arriver jusque-là. Le problème était double pour moi. D'abord, j'avais peu de livres à consulter sur place, dans mon domaine. Bon, j'apportais bien des documents, mais le pire problème de la bibliothèque de l'Académie, le pire écueil, c'est la beauté de la vue sur le Danube. Une fois que vous avez fait tout le périple, vous vous installez, vous voyez les bateaux, vous penchez un petit peu, vous voyez comme ça la façade du Parlement. Difficile de travailler. Donc j'ai cessé d'y aller un beau jour parce qu'on était en été, je suis arrivée. Et je n'avais pas de manteau. Donc tout s'arrêtait là. Je n'ai pas réussi à convaincre la dame, la vieille dame du vestiaire de me donner le porte-clés qui me permettait d'entrer. Voilà. Donc je me suis rabattue sur le Lukács Cukrászda, qui est une très bonne pâtisserie où je travaillais aussi bien. Ceci dit, ma fille avait été un garçon, elle se serait appelée Matyáš, comme le Matyáš Corvinus, le créateur de la bibliothèque Széchenyi. Vous allez dire, c'est moins original que Mazarine, mais c'est dans le même esprit. J'ai vécu à Damas aussi, je sais, je suis exotique. Et à Damas, je me rendais à l'IFPO, l'Institut français du Proche-Orient, et aussi au CCF, Centre culturel français, où je trouvais mon bonheur pour les ouvrages en français. Un jour, j'ai demandé à un ami syrien des conseils pour lire des auteurs syriens. On m'a dit, mais qu'est-ce que vous voulez, quoi ? Un mathématicien, un médecin, un opticien ? Je lui ai dit, moi je voulais des auteurs de fiction, quoi, de livres, quoi. Pour moi, c'est la littérature. Pour mes interlocuteurs, ça n'existait pas tant la censure était puissante. C'était en 2004-2005. J'ai voulu visiter la Bibliothèque nationale de Damas. Et alors j'avais pour guide mon voisin, qui était un monsieur qui avait été photographe officiel de la famille Assad et qui m'a gentiment amené à la Bibliothèque nationale. J'ai demandé à voir la littérature étrangère et on m'a montré quelques livres disparates sur une étagère presque vide où trônait quelques manuels scolaires aux couleurs criardes. Alors, j'y ai repensé il y a deux semaines en regardant un documentaire diffusé sur France 5 qui s'appelait Daraya, la bibliothèque sous les bombes. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu. Donc, il s'agissait de la ville rebelle, une ville rebelle à 7 km de Damas, qui a été l'objet d'une répression systématique de la part de Bachar. Et donc, trois copains d'une vingtaine d'années qui ont eu l'idée de créer une bibliothèque en rassemblant dans une cave des livres récupérés dans des maisons bombardées. Donc, c'était très sérieux. Ils écrivaient le nom c'était très touchant parce qu'ils écrivaient le nom des maisons, des personnes auxquelles ils avaient emprunté les livres dans l'espoir de pouvoir les rendre après la guerre. Et Ils ont installé un beau tapis, des étagères, et ils s'enregistraient eux-mêmes hein, avec des téléphones, des caméras. Et ils disaient que c'était un désir de leur part de mettre de l'ordre dans le désordre. Ils ont récupéré des livres pieux, mais ils disaient qu'ils ne voulaient pas les lire, des manuels scolaires aussi, et même quelques fictions interdites par le régime. Et le seul titre de fiction qui était cité, c'était L'alchimiste de Coelho. Et la poésie de Mahmoud Darwish. Donc on voyait le dos des livres qui était, la plupart du dos des livres qui était vert et or, qui laissait supposer un peu leur contenu. Mais on voyait qu'ils avaient aussi le Guinness des records. Et puis on voit aussi un moment où quelqu'un donne une explication comme un cours sur un best-seller américain de développement personnel, Les 7 habitudes des gens efficaces de Stephen Covey. Le siège a duré plus de 3 ans, la ville s'est rendue, les jeunes se sont réfugiés ensuite en Turquie, et on les voit après découvrir dans une librairie d'Istanbul l'ampleur des œuvres complètes de Darwish. Et l'un d'entre eux se met même à lire 1984 d'Orwell. Donc, moi, pendant le temps que j'ai passé en Syrie, chaque livre était un trésor pour moi. Je me souviens je me rappelle avoir lu W de Pérec, et il est question de souvenirs d'enfance et des camps de la mort. Et je me demandais qui avait eu l'idée d'acquérir ce livre-là pour le CCF. Et c'est pendant ce séjour à Damas que mon roman « Petites histoires de la rue Saint-Nicolas » a été publié en France. Alors, il est question dans ce livre de mes origines juives, judéo-espagnoles, dont je ne pouvais rien dire à Damas. Je ne pouvais pas dire qui j'étais. Heureusement, à l'époque, Internet n'était pas développé et personne n'avait idée de ma véritable identité. Ma grande amie, Randa, avait vu un jour chez moi un livre de l'auteur israélienne Zeruya Shalev et me l'avait demandé. Donc j'avais été très heureuse de le lui donner, mais j'avais peur en le faisant pour elle et pour moi. Je me demandais si elle avait deviné quelque chose. Avec Randa, un jour j'ai visité les Palmyres, et sur le chemin entre l'autobus et le site archéologique, on a été poursuivis par des enfants qui criaient derrière nous, qui criaient Kalam, Kalam. Ce que demandaient ces enfants, c'était des crayons pour écrire. J'ai voulu m'arrêter pour leur donner de l'argent, et mon ami m'a vraiment intimé l'ordre de ne pas le faire. Je lui ai obéi, mais la mort dans l'âme. Parce qu'aujourd'hui encore, je repense à ce cri, hein, à cette demande d'enfant. Moi-même, j'ai été enfant dans une maison où les livres étaient précieux et rares. C'était des prix donnés à l'école en fin d'année qui étaient lus, relus, et j'aimais un tout petit dictionnaire que ma mère avait reçu dans son enfance. Il y avait une planche avec des lettres faites avec des mains, des lettres en langue des signes qui me fascinaient, avant la grande ouverture sur le monde qu'a été pour moi le petit Robert. Et alors la merveille, ça a été l'arrivée du petit Robert 2. Alors, avec des illustrations, c'était la première édition en 1974, et je me souviens qu'on était fascinés par il y avait une image qui représentait le sultan ottoman Mehmet II de profil qui sentait une rose. Et alors il y avait une mention Mehmet voire Mehmet, et si vous y alliez de l'autre côté, vous y êtes Mehmet voire Mehmet, et donc voilà, ça nous ravissait. Et puis, ma vie a vraiment changé lorsque j'ai appris l'existence de la bibliothèque municipale. Alors là, on prêtait gratuitement les livres. La première œuvre que j'ai voulu emprunter à la bibliothèque de la rue Fédère a été La recherche du temps perdu, parce que j'avais entendu ce titre à la radio. J'avais 14 ans et le premier volume avait été emprunté. Je l'ai attendu, je l'ai désiré et je m'y suis plongée. Et voilà. Et longtemps, j'ai cru que la vraie vie, c'était la littérature, et que les petits pans de mur jaune rayonnent plus que le soleil. Bon, avant d'être admise dans les bibliothèques universitaires, j'ai écumé les bibliothèques ouvertes à tous. Refuge pour les pauvres et les clochards qui s'endorment, ronflent et lisent même quelquefois. À la BPI, à Beaubourg, il fallait faire la queue le dimanche matin à partir de 10 heures quand on était étudiant. Et j'avais connu Aziz, qui enseigne aujourd'hui la philosophie au lycée Henri IV, grand habitué de la BIS aussi, un grand ami de toujours. Et quand on allait à la BPI, il y avait un type qui était plus âgé que nous, qui s'appelait Norbert, et qui disait rechercher des représentations rarissimes d'ombres rouges dans les tableaux. Chercher des ombres rouges dans les œuvres d'art, et il nous demandait de lui dire si on en trouvait. Il se plaignait aussi beaucoup d'une vibration qu'il y avait chez lui qui l'empêchait de dormir. On voyait aussi souvent un type qui gagnait sa vie en faisant le fakir sur le parvis. Et un jour, le fakir s'est mis à genoux devant moi en me disant que si je me donnais à lui, il ferait de moi la reine de l'univers. Alors je lui ai... Non, pour amuser la galerie, je me suis retournée vers lui et je lui ai dit, mais vous ne m'avez pas reconnu, c'était une pub à l'époque, vous ne m'avez pas reconnu, mais je suis déjà la reine de l'univers. Alors là, le fakir a redoublé d'ardeur et il ne savait plus quoi faire. Il a sorti de sa poche des cartes postales. Il en a fait un éventail et il me les a proposées. Alors, je n'en voulais pas, le pauvre. Mais s'il insistait, donc j'ai pris un Matisse. C'était des cartes postales du musée Beaubourg. Je ne sais pas comment il les avait eues, mais bon. Donc, j'ai pris un Matisse. Je crois que j'ai mis une petite... Je n'ai pas fait beaucoup de PowerPoint, mais voilà, un Matisse qui représente cheval, écuyère et clown. Il a insisté pour que j'en prenne un autre et j'ai pris, ça c'était ça. Et puis sinon, il y avait donc Ulysse et les sirènes de Picasso, hein, Picasso bleu mais joyeux de 1947. Donc l'accueil pour nous comptait plus que tout, les livres en libre accès. Donc malgré l'attente dehors, la puanteur dedans, on était bien. Donc vous allez me dire, les temps ont changé, le numérique a bouleversé notre vie. Et il n'est pas rare aujourd'hui de voir des piles de livres jetées dans la rue, mais on manque d'argent aussi pour en acquérir dans certaines bibliothèques. Ceci dit, les bibliothèques sont encore pleines et les étudiants font souvent la queue pour entrer ici à la bibliothèque ou à Sainte-Geneviève. On les voit même attendre sous la pluie quelquefois. Alors pour moi qui balance entre deux âges, tout est à inventer tous les jours entre les attachements anciens et les offres nouvelles. Je vous donne un petit exemple. Donc je travaille sur le judéo-espagnol du Maroc, une langue très fragile, et les livres qui concernent cette langue sont rares et dispersés dans le monde. Alors j'avais proposé à une institution de les acquérir et de faire un fonds pour les chercheurs français. Les chercheurs français. Alors j'avais été reçue par la directrice de cette institution, très aimable, très attentionnée. Alors son bureau était installé devant un grand miroir. Et donc très délicate, comme ça, des lunettes d'hypermétrope qui lui donnaient comme ça un regard très doux. Et donc, elle a fini, quand je lui ai dit que je voulais acquérir des livres et faire ce fonds, elle a fini par me demander si je savais quelle était sa dotation pour l'acquisition d'ouvrages cette année. Et comme j'en savais rien, elle m'a regardée et elle a articulé très lentement, elle m'a dit « zéro ». Rien, c'était en espagnol. Rien, nada. Je me débrouille pour acheter quelque chose, nous avons quelques échanges. Alors là, comme j'ai vu derrière les lunettes, comme ça, qu'il faisait de grands yeux, qu'il commençait à y avoir des larmes, j'ai baissé les yeux, parce que je ne voulais pas voir les miennes dans le miroir. Et pour sa bibliothèque, et pour mon projet aussi. Et donc, alors après, elle s'est mise à me parler avec enthousiasme des livres électroniques. Alors, je ne m'y attendais vraiment pas, mais moi, je dis, bon, les livres électroniques, je suis myope, non. Elle me dit, mais non, maintenant, les liseuses sont bien meilleures, c'est beaucoup plus confortable qu'avant. Elle m'a vraiment engagée à essayer. Elle me dit, mais allez-y. Elle m'a parlé de ses propres réticences, et elle me dit, le tout, c'est de sauter le pas. C'est comme... quand on trompe son conjoint pour la première fois. Et là, j'ai relevé la tête et j'ai vu la surprise dans le miroir. J'ai vu ma tête. Bon, depuis, cette dame a pris sa retraite, elle est partie vivre dans un autre pays. Donc moi, j'utilise beaucoup de ressources électroniques, mais je n'ai pas acheté de liseuse. Donc au début de ce mois-ci, j'ai trouvé une encyclopédia universaliste dans la rue. Dans la rue, à côté d'objets encombrants, il y avait un numéro comme ça, encombrant, et il y avait une encyclopédia universitaire. Alors, moi, cette encyclopédie, elle avait fait mon bonheur quand j'étais lycéenne. Mais alors, à l'époque, c'était totalement inaccessible pour moi. C'était beaucoup trop cher, beaucoup trop encombrant. Je n'aurais jamais rêvé de l'acquérir. Mais en la voyant là, j'ai un peu hésité et j'ai dit à ma fille qui m'accompagnait, j'ai dit, attends-moi. Il commençait à pleuvoir. Je suis vite rentrée à la maison. J'ai pris deux parapluies, le caddie que j'utilise pour les courses et de grands sacs aussi de courses. Et j'ai rapporté comme ça les 32 volumes, parce qu'il y avait des additions, hein, à la maison. Donc on a fait j'ai fait quatre allers-retours, ça veut dire encore rescate. Lors du dernier trajet, ma fille, qui a 13 ans, portait 3 volumes, elle n'arrêtait pas de me demander « Mais à quoi ça sert ?» J'ai dit « Tu verras ». Je ne voulais pas non plus, ce n'était pas le moment d'entamer une comparaison avec Internet, Wikipédia, ce n'était pas le moment. Il faut bien dire que j'avais hésité un peu moi-même. Donc à la maison, je suis arrivée, j'ai un peu essuyé un volume, pas, je les ai tous essuyés bien sûr, mais il y en a un comme ça, je l'ai ouvert et j'ai retrouvé le choix des photos. Vous savez, c'est comme quand vous allez dans un musée national et quand vous allez dans un musée qui est la collection d'un collectionneur, c'est totalement différent. Donc le choix des photos, le point de vue des auteurs d'articles, leur signature, l'information datée, filtrée, cadrée, le délice était encore là. Et pour finir maintenant, je vais vous parler, c'est la troisième partie de ma présentation, très rapide, voilà, je vais vous parler de mon livre préféré de la bibliothèque de la Sorbonne, de la BIS. Donc voilà, en voilà un, en tout cas, que je ne pourrai jamais posséder. Ça, si je le trouve sous la pluie, je ne serais pas mécontent. Bon. Alors, je vais vous dire comment je m'en suis emparée. C'est un exemple des textes sur lesquels je travaille. Il porte une histoire tricotée de liens multiples entre la France et l'Espagne qui me ravissent. Alors, j'en ai rajouté un petit, moi-même, en publiant aux éditions Alia une édition bilingue de ce livre en 2006. Il s'agit de Soliloquios amorosos de un alma a Dios, Soliloque amoureux d'une âme à Dieu, publié en 1626 par Lope de Vega, donc Lope, 1562-1635. C'est un des auteurs les plus importants et les plus prolifiques du siècle d'or espagnol, auteur de poésie, de textes en prose, surtout de grand réformateur et théoricien du théâtre du XVIIe siècle. Donc celui que Cervantes, son contemporain, a surnommé le monstre de la nature et que l'on appelle plus communément aussi le phénix des esprits. Pourtant, Lope est très peu connu en France, très très peu connu en France et très peu traduit. On peut citer quand même, je vais vous citer deux traductions et mises en scène importantes comme Fuente Ovejuna, qui est l'histoire d'un tyrannicide, donc des paysans qui se soulèvent et qui tue le tyran, qui a été traduite par Jean Cassou et Jean Camp sous le titre de Fonte au Cabre. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a été publié en 1937. Vous voyez ? Et donc, bon, je ne vais pas entrer sur Fuente Ovejuna parce que je pourrais vous en parler pendant très longtemps. Mais ça, c'est une traduction qui a beaucoup de sens. Et d'autre part, encore une autre traduction et mise en scène qui, moi, me touche beaucoup aussi, c'est Le Chevalier d'Olmedo, mise en scène par Camus en 1957. Parce que c'est vrai que c'est une histoire qui est saisissante. C'est à quelqu'un qui est extraordinaire, le chevalier d'Olmedo, qui a toutes les vertus et qui pourtant meurt tragiquement. Et on se demande, mais pourquoi ? Enfin, il y a quelque chose, c'est vraiment camusien. Alors, pourquoi Lope n'est pas connu en France ? Pourquoi il est si peu traduit ? On peut se dire que c'est la splendeur du théâtre français du grand siècle qui occulte tous les autres. Ce qu'on connaît du théâtre espagnol en France se résume à Tirso pour Don Juan et à Calderón quand on a beaucoup de lettres, donc pour La vie est un songe, tout. Mais bon, pour nous consoler, on peut se dire aussi que pour tout le théâtre élisabétain, on ne connaît que Shakespeare. Donc. Ce qui complique aussi, je crois, la réception française de Lope, c'est aussi le fait, c'est la valeur dans le texte original, du texte original, c'est la spontanéité de la langue espagnole, qui est si simple et si subtile. Il a une façon de déplier les mécanismes de l'amour, surtout l'amour, en technicien du théâtre et en virtuose de l'émotion. Les deux marchent très bien. Alors, vous l'aurez compris, j'aime Lope. Et alors, j'ai été saisie devant ce livre-là par une mission de rescate. Alors, tout a commencé par une chanson enregistrée par Montserrat Figueras dans un disque que j'ai même apporté. Moi, je suis d'une époque où on achetait encore des disques. Donc voilà, ce disque-là qui s'appelle... Lope de Vega, Intermedios del Barroco Hispánico, donc 1580-1680. Donc c'est vous savez, c'est Hesperion 20, un ensemble qui a été connu un peu en France par Jordi Savall. Vous savez, en 1991, il y avait eu ce film d'Alain Corneau qui s'appelait Tous les matins du monde, à partir du roman de Pascal Quignard. Et en fait, c'était l'histoire d'un musicien qui jouait de la viole de gambe, et celui qui jouait vraiment de la viole de gambe, c'était Jordi Savall. Donc il a commencé à être connu en France. Et donc, dans ce disque, il y a une pièce qui dure 8 minutes, où on entend la voix de Montserrat Figueras, qui était l'épouse de Jordi Savall, qui chante d'une façon bouleversante une chanson qui dit... je vous redonne le début, qui dit, je me concentre un peu, attendez, ça dit, si, si tus penas, j'arrive pas, si tus penas no pruebo, si tus penas no pruebo, Jesús mío, ay, Jesús mío, vivo triste y penado, dámelas, 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 por el alma que te he dado, que si este bien me hicieres, ay Dios, cómo veré, ay Dios, cómo veré lo que me quieres. Donc, ça donne en français, si je n'ai tes blessures, mon doux Jésus, je vis triste et suis blessée. Donne-les-moi pour l'âme que je t'ai donnée. Si j'avais ce privilège, mon Dieu, comme je verrais combien tu m'aimes. Aime-moi bien et montre-le par ce don, car c'est la loi des amants de partager comme les joies les tourments, et il n'est pas de justice si j'ai tous les plaisirs et toi le supplice. Mais pourquoi te demandais-je ton amour si toi tu m'aimes mon cœur, de sorte que pour que je vive tu meurs. C'est moi qui ne t'aime pas, moi qui ne meurs pas, te voyant au trépas. Bon, ça continue comme ça. C'est une version qu'on appelle Allo Divino, c'est-à-dire une version religieuse d'une chanson profane qui s'appelle Tes cheveux dorés, Tu dorado cabello. Et donc le poète me dit, donc tes cheveux dorés attachent mon cœur. Et bon, la métaphore n'est pas nouvelle, elle est là dans, par exemple, dans le Cantique des Cantiques, avec un seul cheveu, on attache l'amour. Alors, le lien étroit du poète avec Jésus est à l'image de mon propre lien avec le christianisme. Et c'est vrai, moi qui ai reçu une éducation juive traditionnelle, je suis passée d'une gêne terrible quand je voyais, en voyant des gens s'agenouiller devant la représentation d'un homme agonisant sur la croix, à un questionnement ensuite, puis à un sentiment véritable devant les œuvres. Devant les... Et en fait, j'ai intégré par les images plastiques et poétiques la puissance et la hauteur de l'incarnation. Il y a eu un moment où mes parents avaient peur que je me convertisse. Non, il s'agit d'émotions esthétiques. Lopé, dans les soliloques, situe le lecteur à la place de l'amant ou de l'amante qui perd celui qu'il aime, un peu à la place de Marie-Madeleine que j'avais tellement étudiée dans l'iconographie de la Contre-Réforme. Et tout le livre est construit sur cette image. Alors j'ai cherché le recueil dans lequel la chanson est, duquel la chanson était tirée, et je ne le trouvais pas facilement en France. Elle avait été publiée par le musicien Francisco Guerrero, qui l'avait mise en musique, mais je ne le trouvais pas. En fait, j'ai mis du temps à le retrouver, parce que ce livre qui est ici n'apparaît pas dans les catalogues habituels, dans les grands catalogues Simón Díaz, Palau y Dulcet, il n'est nulle part. Et même ici, le fond de la réserve n'était pas versé sur le fond électronique, et puis même dans les catalogues manuels qui existent, il y a comme un double fond pour certaines œuvres antérieures, etc. 1700. Donc c'est un peu par hasard que je l'ai trouvé, mais je l'ai trouvé. Bon, et quand j'ai demandé le livre et que j'ai vu arriver cette petite merveille-là, j'en ai été bouleversée. Comme je vois que le temps passe, je vais aller un petit peu plus vite. Donc je suis tombée sous le charme de ce livre que je sentais proche de moi parce qu'il était conservé ici, et j'ai commencé par faire un travail universitaire. J'ai fait un travail scientifique. J'ai travaillé sur les soliloques, la généalogie. Bon, ça vient de Saint-Augustin. C'est Saint-Augustin qui a inventé le mot même de soliloque. Après, il y a un texte du XIIIe siècle qui a circulé sous le nom de soliloque de Saint-Augustin, mais ce n'était pas Saint-Augustin, c'était pas le texte de Saint-Augustin. Et c'est à partir de ce texte, avec cette émotion religieuse du XIIIe siècle, qu'on arrive à la forme que donne Lope. Mais Lope s'appuie aussi sur tous ces poèmes glosés dont le modèle est celui de Saint Jean de la Croix, où vous avez un poème et une extension théologique. Mais Lope ne fait pas ça. Ce qu'il fait, il fait tout comme une espèce de lettre, comme une espèce d'adresse amoureuse, où il n'y a pas une partie plus théorique. Tout est adressé à Jésus avec la même émotion, avec des digressions comme ça, comme si on parlait à quelqu'un qu'on aime. Pour faire, donc moi la question que j'ai, enfin ce que j'ai analysé, c'était les origines, et puis ensuite voir comment ça s'articulait, même dans l'œuvre de Lope, pour voir s'il y avait d'autres modèles de ce type-là. Et effectivement, Lope a perdu dans sa vie des femmes qu'il a aimées, et il y a un texte qui s'appelle Les Novelas a Marcia Leonarda, où il joue comme ça, où il écrit à une femme qu'il aime. Et on a le même type de mono-dialogue amoureux. Et puis, ce livre est passionnant aussi parce qu'il a été construit par étapes, petit à petit. D'abord, il y a eu un fascicule, où il y avait 4 soliloques. Ensuite, il en a fait en 1612. Ensuite, ces 4 soliloques ont été inclus dans un recueil en 1614, un recueil de poésie religieuse qui s'appelle « Rimas Sacras ». Ensuite, ça a été amplifié pour faire ce volume-là. Il y en a eu un autre à Madrid de la même époque. Et puis, des éditions plus grandes. Vous voyez, celui-là est singulier aussi par sa forme. Lope l'a développé. Il en a fait, au début, on avait 4 soliloques. Après, il en a fait 7. Il a mis la glose. Il a rajouté une introduction. Il a mis aussi des traductions à la fin, des prières, et puis des traductions du Stabat Mater et d'Ave Maria Stella. Et en fait, ce livre-là est touchant parce que c'est un témoin de son époque. En fait, c'était un petit livre à la mode. Il y avait plein d'éléments qui le mettent, qui font que c'est un petit ouvrage à la mode. Il est à la mode pour son sujet, c'est la contre-réforme, et aussi pour ce jeu amoureux, mais ça, bon. Et à l'époque, la poésie religieuse fonctionnait en fait avec des images très simples pour faire en sorte que les lecteurs arrivent à comprendre les dogmes ou les idées les plus compliquées en les rendant très simples. Et donc là, il y a eu une tension entre Lope de Vega, entre le style de Lope de Vega et le style de Góngora, et avec une rivalité entre eux très acerbe. Et bien, dans ce livre-là, tout petit qu'il est, il a un prologue qui est un récit de la vie d'un personnage que Lope a imaginé, qui s'appelle Graviel Padecopeo. Il dit que le livre, ce n'est pas lui qui l'a écrit, mais Graviel Padecopeo. Un valeureux soldat, fidèle à son roi, aimé des femmes, mais la calomnie, donc il y a une calomnie terrible, l'a poussé à se retirer dans une chartreuse en France, c'est un Français, et donc Graviel Padecopeo, dans sa retraite près de Grenoble, a écrit ce livre. Mais bien sûr, Graviel Padecopeo, c'est l'anagramme de Lope de Vega Carpio, et tout ce qu'il raconte, c'est sa propre vie, et la calomnie, c'est la calomnie de Góngora. Tout ça dans ce petit livre. En plus de ça, ce petit livre est offert à Inés de Zúñiga, l'épouse du Conde Duque de Olivares, qui était le favori du roi à l'époque. Donc là aussi, c'était une façon de se présenter. Et pourquoi cette forme ? Pourquoi cette forme ? Parce que c'était la mode. C'était une mode venue des Flandres où on faisait de tout petits livres comme ça pour soit des livres d'amour, soit des livres de des livres pieux. Et celui-là, c'était les deux à la fois. Vous voyez, livres de manche qu'on portait sur soi. Donc, je ne vais pas continuer à vous en raconter beaucoup plus. Je vais seulement vous dire un mot sur l'histoire de ce livre, comment il est arrivé jusqu'ici. Vous voyez, ce qu'il a de beau, ce petit volume, c'est aussi sa reliure. Il a une reliure très soignée, rouge, en cuir rouge, avec dessus un ex libris. Je ne sais pas si vous le voyez bien, c'est l'ex libris des Salva. Et là, alors là, vous voyez peut-être là ici en plus grand, vous voyez deux mains qui se tiennent. Alors, ces deux mains qui se tiennent, c'est là l'ex libris de Salva, un collectionneur valencien qui a une histoire aussi qui est complètement tissée entre la France et l'Espagne. C'était un Valencien, un enfant surdoué qui, à 18 ans, a commencé à enseigner à Alcalá de Henares, mais les conquêtes napoléoniennes ont fait qu'il est retourné à Valence. Il a fait de la politique, mais ensuite il a dû pas s'exiler, il est allé en Angleterre, ensuite il est allé en France. Il a ouvert la première librairie hispano-américaine à Paris. Il a publié des dictionnaires, des grammaires, etc. Quand il a obtenu, mais il n'avait qu'une idée, retourner à Valence. Sa vie a été une série d'allers-retours liés aux aléas politiques du 19e siècle qui ont été très bouleversés en Espagne aussi. Quand il a pu, il est rentré en Espagne et là, il a développé, vous savez, c'était le fils d'un commerçant en soie. Mais comme il a commencé à développer une telle érudition, il allait chez le libraire. Et il a fini par épouser la sœur du libraire. C'est comme ça qu'il a développé le commerce des livres. Parce qu'il ne pouvait plus enseigner non plus à cause de questions politiques. Après avoir ouvert sa librairie en Angleterre, ouvert une librairie en France, hispano-américaine, il a fait fortune aussi en vendant beaucoup de livres en Amérique latine. Il est retourné à Valence et là, sur ses vieux jours, il a, avec son fils Pedro, ce que vous voyez, je ne sais pas si vous le voyez bien ici, vous voyez que sur l'ex-libris, on a d'un côté le V et de l'autre côté P. Lui s'appelait Vicente et le fils Pedro. Et en bas, vous avez le S. Et donc, cette association, il disait, donc nos mains doivent être unies ici, témoignant que cette bibliothèque est due à nos efforts communs et sont unies comme le sont nos cœurs. Donc, une histoire d'amour des livres et d'amour filial entre un père et son fils, qui, quand il avait une soixantaine d'années, qu'il a pu retourner à Valence, il s'est mis à collectionner des livres, les livres les plus beaux, qu'il a fait relier richement. Et un jour, pour chercher des précisions bibliographiques, parce que non, ils étaient bibliophiles, bibliographes, ils avaient le projet de faire un catalogue érudit et précis de leur collection. Vicente Salva a décidé d'aller à Paris pour chercher des documents dans des bibliothèques. Mais il y avait une épidémie de choléra. Il en est mort. Il est mort de sa bibliophilie. Son fils restait en Espagne, a continué sa collection, mais lorsqu'il a pu terminer son catalogue, qui est d'ailleurs ici à la réserve en deux volumes, un catalogue très précis, le catalogue a été publié en 1872 à titre posthume, parce que le fils aussi est mort, mais son fils n'a pas eu d'enfant bibliophile, bibliographe. Et la bibliothèque ensuite a été dispersée malheureusement et vendue en France. Et c'est dans ces ventes-là, qui ont eu lieu entre 1891 et 1894, qu'un libraire a pris des livres et la bibliothèque de la Sorbonne conserve beaucoup de livres de cette bibliothèque de Salva. Mais c'est un des secrets de ce petit volume-là. En le manipulant, on voit qu'à la fin du livre, Salva a fait relier un autre livre aussi. Donc il y a une autre histoire en plus que je ne vais pas développer. Mais dans cette présentation à tiroir, il y a une dernière surprise. Donc voilà, ses mains unies me donnent l'occasion de rendre hommage à la maison des écrivains qui a vécu des heures difficiles et qui vient d'avoir confirmation que son action pourra se poursuivre. Donc voilà, les mains unies des écrivains, des bibliographes, des chercheurs. Et puis, je voudrais dédier aussi cette intervention à ma mère qui est très malade, malheureusement. Et voilà, et donc je le fais dans ce lien entre le père et le fils, pas dans l'esprit des tombeaux antiques où on donne, mais non, plutôt dans un désir de vie, et pour vous montrer que ces livres sont vivants. Il y a quelqu'un qui me fait un vrai cadeau, et c'est Corinne qui est ici, qui travaille ici et qui est musicienne. Elle m'a proposé de mettre en musique un extrait de ma traduction. J'ai pu écouter sa musique et sa voix talentueuse et très émouvante, qui vont faire vivre autrement le texte ici. Et voilà, je la remercie de tout cœur.
J'ai quand même le trac. c'est le soliloque 3. Hein, voilà. Il faut que je m'approprie la salle. Hélas, faut-il que je m'en veuille? J'ai effeuillé la fleur de l'âge. Parmi mes leurres et mirages, du sentiment qui rend aveugle, combien de folies et d'erreurs par mes cinq sens ont pu passer avant que vers moi vous tourniez votre regard divin, Seigneur. J'ai vécu fort loin de vos yeux, ô céleste beauté chérie, si loin et tant de mal pétri, comme quiconque vit sans Dieu. Je ne me suis pas approché auparavant, mais j'avais cru que vous étiez bien retenu. Sans doute, en vous voyant cloué, si j'avais su en vérité que vous auriez pu vous enfuir, j'aurais bientôt fait de vous suivre avant que d'aller m'égarer. Passion et nuit, pour mon désordre et pour mon cœur, car là où est la mort pour vous, se trouve un abri pour ma vie. Si vous m'avez fait appeler au tribunal que j'offensais, alors même que je péchais, que serait-il arrivé? Je bénis votre compassion. Vous m'appelez pour vous aimer. Mais comme si de moi vous aviez besoin de quelque façon. Pour vous, ma vie, mon doux Jésus, en quoi puis-je être nécessaire si je vous dois jusqu'à mon être ce que je suis, ce que je fus? À quoi pourrais-je vous servir si je suis ce que vous savez? Quel besoin puis-je donc combler? Et quel ciel ai-je à vous offrir? Quelle gloire allez-vous chercher en moi? Mon amour éternel, car sans vous, je ne suis qu'enfer. Voyez comme en moi vous entrez. Voyez comme en moi. Voyez comment moi vous entrez. Merci beaucoup.